de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe, le 20 mars 1992 à Saint-Jeudard.
Le père Philippe, père Marie-Philippe vient me téléphoner pour me dire que le père Emmanuel est parti pour le ciel hier, à minuit moins le quart. Toute la journée, il a demandé à Saint-Joseph de venir le chercher. Parce qu'il souffrait terriblement et qu'il jugeait, la dernière fois que je l'ai vu, il s'est terminé maintenant, qu'on aille le plus vite possible au ciel. Donc il est parti à minuit moins le quart hier, à la fin de Saint-Joseph, de la fête de Saint-Joseph. Alors priez pour lui, je dirai la messe tout à l'heure pour lui, pour que nous soyons de cœur avec sa petite communauté de là-bas. Alors il y a beaucoup de questions. Je comprends que les sujets qu'on voit actuellement sont des sujets très importants pour nous et pour Saint-Jean Éducation. Saint-Jean Éducation, c'est pas seulement le père Jean-Emmanuel, vous comprenez bien, c'est la communauté qui réfléchit sur un des aspects que le Saint-Père considère comme absolument fondamental au point de vue apostolique. La famille. La famille, le JMJ. Et l'éducation, Saint-Jean éducation. Et la rééducation, Saint-Jean espérance. Il faut les bloquer ensemble, avec tout ce que ça représente comme difficulté. La rééducation, c'est au carré des difficultés. Les toxicos. Alors, dans le contexte dans lequel nous vivons actuellement, où les divorces et les familles sont nombreuses, les familles union libre. Comment un père et une mère séparés qui veulent rester vrais face à ce que leur propose l'État par suite d'un jugement peuvent-ils exercer leur autorité sur leurs enfants dont ils vivent séparés et vivent d'une véritable paternité, maternité en évitant de faire trop souffrir l'enfant, en évitant un excès affectif lorsque dans le couple il n'y a plus de coopération et que l'un des deux souhaite une éducation religieuse. Bon, alors faisons attention. Nous faisons un effort de philosophie en éthique. Ceci doit éclairer toutes les situations tragiques. Mais il n'y a pas de philosophie des situations tragiques. Je crois que c'est très important, ça, vous voyez. La philosophie cherche des principes. Dès qu'il y a des ruptures qui sont contraires à une éthique religieuse ou une éthique humaine, tout court, on est en face de situations tragiques. Alors, à ce moment-là, c'est la prudence de chaque cas particulier. N'ayons surtout pas des tiroirs. C'est pire. Il ne faut pas confondre les tiroirs et les principes. Ah, vous êtes, mais ça, c'est la sociologie, elle a des tiroirs. Elle représente, ah, c'est pas prévu. Voilà. Combien de fois j'ai entendu ça? Ah, c'est pas prévu. Ah non, on ne s'occupe pas de ça. Et ça n'entre pas dans le tiroir X ou Y. C'est effrayant, ça. La saisie. la prudence, c'est chaque cas particulier. Alors je ne peux pas traiter d'un cas particulier universel, puisque ça n'existe pas. Donc je ne peux rien dire. Je ne dirai quelque chose que si je suis en face du père, en face de la mère, en face des enfants. Communauté, elle fait pas naître l'autorité, s'appuie. sur un être spirituel, un être qui a une finalité et qui a des responsabilités. La responsabilité s'appuie sur l'amour et l'autorité s'explicite à partir de la responsabilité. Je ne suis pas une autorité toute faite. L'autorité en soi. Chercher l'autorité en soi. L'autorité se fonde. Parce que c'est une relation, l'autorité. C'est une relation de quelqu'un qui a des responsabilités sur un autre pour l'aider à découvrir sa finalité. Et le pouvoir est aussi, lui, dans son exercice, il repose sur la communauté. Mais le fondement de l'autorité et du pouvoir, c'est évidemment une nature capable de s'ordonner à la finalité. Est-ce que le lion, dans la famille des lions, a autorité sur la lionne et sur les petits lions? Est-ce qu'il a autorité? Instinct qui fait qu'il domine. Il n'allait pas dire qu'il y a autorité. Il ne sait pas quelle est sa finalité, pauvre lion. Est-ce que la finalité du lion père et grand-père, c'est d'avoir le plus beau morceau quand la lionne a chassé? Parce que c'est la lionne qui chasse. C'est pas le lion. Le lion, il mange. Et la lionne chasse. Et elle partage. J'ai assisté à un repas comme ça. C'était extraordinaire. C'est très extraordinaire de voir ça. Alors vous voyez toute la bille qui est entre la famille lion et la famille humaine. C'est l'instinct, ça. C'est très beau, du reste. C'est très beau parce que quand c'est pas abîmé, l'instinct est beau quand il n'est pas abîmé. Il relève de la sagesse de Dieu. Et il nous aide à comprendre la sagesse de Dieu. Alors, le lion n'est pas abîmé par le péché originel, mais il est abîmé par les conventions. Il est abîmé par l'homme. Quand il n'est pas abîmé par l'homme, c'était au Rwanda, j'ai vu ça. Au Rwanda, il n'y a pas de chasse. On ne chasse pas. On n'a pas le droit de chasser. Alors les animaux sont beaucoup plus proches. Et le parc national qui garde les choses, mais c'est presque tout le pays. Pas tout à fait, mais presque. Alors on peut assister au repas de gala du lion. Mais vous n'êtes pas à sa droite ni à sa gauche. Vous avez un œil dessus. C'est très important. Qu'est-ce que c'est que l'autorité? Les fondements de l'autorité, la responsabilité que vous avez d'un être qui dépend de vous et qui ne peut pas par lui-même atteindre sa finalité. Alors vous avez autorité pour le conduire, c'est un service d'autorité, pour aider à conduire à la finalité. Le pouvoir, c'est le pouvoir de coercition. Pour être là, pour aider à l'autorité, à s'exercer, relative à l'autorité. Quand il n'y a plus d'autorité, qu'il n'y a plus qu'un pouvoir, ça devient un pouvoir tyrannique. Très très vite. Dans la famille, le pouvoir est très peu. La famille ancienne, le pater familias, attribuait une autorité absolue. Donc, l'obéissance est-elle donc une vertu morale? Mais alors, attendez, mais alors, c'est la communauté qui fait naître, qui oblige l'exercice de l'autorité, c'est plus juste de dire ça, qui fait naître l'autorité, qui permet à l'autorité de s'exercer, qui exige que l'autorité s'exerce. L'autorité s'exerce toujours dans une communauté. L'autorité la plus simple, la plus élémentaire, les parents à l'égard de l'enfant. celui qui a autorité sur le point de vue de l'économie, le point de vue du travail. Donc, l'obéissance est-elle une vertu morale? Oui, parce que c'est en vue de la finalité. Et on coopère en vue de la finalité. Ou faut-il la regarder comme une condition de la vie politique? Ah non, c'est beaucoup plus que ça. C'est pas une condition de la vie politique. De fait, s'il n'y a pas d'autorité, la vie politique disparaît. Ça, c'est sûr. Donc, condition sine qua non, si vous voulez. Mais plus, c'est une vertu personnelle. Elle engage chacun des individus en vue de la finalité. J'obéis à celui qui a autorité, à celui qui est capable de me conduire à ma finalité. Celui qui est incapable de me conduire à ma finalité n'a qu'une autorité conventionnelle. Pas grand-chose, vous savez. L'autorité est nécessaire dans la communauté des travailleurs, oui. Quelle est-elle dans la communauté politique? Ben, elle est toujours la même, en vue de la finalité. Le conditionnement, la matière de l'autorité, c'est le conditionnement. Le conditionnement dans l'ordre du travail, efficacité. Conditionnement dans l'ordre de la famille, acquérir les vertus. En vue de la finalité. Et la première vertu qu'on acquiert, c'est l'obéissance. On obéit pour acquérir les autres vertus. Et on acquiert les autres vertus en vue de l'amour d'amitié. Pour qu'il puisse y avoir, dans les membres de la famille, une profonde unité, une confiance. Quelle différence de regard y a-t-il en éthique et en politique sur ce problème de l'autorité et l'obéissance? Oui, alors je ne peux pas entrer dans tout point de vue politique ici, mais la politique est au service de l'épanouissement de la personne humaine. Pour permettre à l'homme d'acquérir sa vraie personnalité, c'est-à-dire découvrir sa vraie finalité. C'est pour ça la politique. Vous voyez, s'il n'y avait qu'une famille sur la terre, la politique serait familiale. Ce serait le père et le grand-père. Et tant que le grand-père existe, il y a le grand-père et le père. Et puis les enfants et les petits-enfants. C'est ça le point de vue naturel. Et toute politique repose là-dessus. Toute politique repose là-dessus. Sur la famille. Mais la politique représente autre chose que la famille. Mais fondamentalement, elle repose. C'est pour ça qu'un État qui n'a plus de politique familiale est un État qui se voue au suicide, à la disparition. Et l'autorité va toujours naître à partir de la communauté familiale. Et quand il n'y a plus d'autorité au niveau de la communauté familiale, vous savez, tout le reste va dégringoler. Alors, il y a quelque chose qui serait très important à noter, alors qui serait au niveau politique, religieuse, parce qu'il y a une politique religieuse. On ne l'a pas encore traité, mais on le traite à la fin. Dans la politique religieuse, il y a ordinairement une autre autorité que l'autorité du père de famille. Il y a l'autorité politique en vue du bien commun. Et dans ce bien commun, je dois respecter l'aspect du culte religieux. Et il y a des autorités religieuses. Une politique bien faite, religieuse, devrait respecter les communautés religieuses qui ont leur autorité. Respecter, non pas imposer, c'est pas l'État qui doit imposer l'autorité religieuse. L'État, par nature, n'est pas religieux. Vous voyez, il respecte l'attitude religieuse. Mais il n'est pas religieux par nature. Il est religieux dans la mesure où les hommes qu'il gouverne sont des hommes religieux, plus ou moins, mais ont une finalité religieuse. Alors, ils respectent. de ça. Et donc à ce moment-là, c'est plus qu'un respect, c'est une coopération. Alors on pourrait dire à ce moment-là qu'il y a une autorité religieuse d'État, en faisant grande attention, et c'est pas commode à préciser, elle est exactement l'autorité religieuse intégrée dans la nation, dans l'État. C'est dans la mesure même où l'État implique des sujets qui ont une finalité religieuse. Puisque l'État est pour l'homme et pour l'épanouissement plaidier de l'homme. Et dans l'épanouissement plaidier de l'homme, il y a l'aspect religieux. Et c'est pour ça que la séparation de l'État et de l'Église repose sur la foi et non pas sur l'attitude religieuse. Il faut bien distinguer les deux choses. Il faut distinguer l'aspect religieux et l'aspect de la foi. La foi est transcendante et personnelle. L'attitude religieuse est immanente et communautaire. Ah oui, pardon, la paternité qui est source de vie. Pourquoi n'est-ce pas plutôt la maternité? Quand vous dites cela, parlez-vous en théologie ou en philosophe? Ce sont les deux qui sont source de vie. Moi, je dis, ne sépare pas. Je ne peux pas séparer. Et on ne peut pas séparer. La source de vie, c'est la paternité, la maternité. C'est le lien des deux. C'est la coopération des deux. Au point de départ. On est père en fonction d'un enfant. On est mère en fonction d'un enfant. Tant qu'il n'y a pas d'enfant, on n'est pas père et mère. C'est pour ça que même au plan surnaturel, c'est, au point de vue de la paternité spirituelle, c'est celui qui demande d'être dirigé par un père qui fait la paternité. La paternité n'existe pas autrement. Elle existe virtuellement. En puissance. Et c'est pour ça que c'est toujours l'enfant qui dit au père, je vous considère comme mon père spirituel. Et il doit le dire. Et quand il dit, j'ai tel père spirituel, très bien, on comprend qu'on n'exerce pas une paternité immédiate. Alors on peut aider, soutenir, mais on respecte la paternité. Et ça c'est très important. On doit être lucide là-dessus. On ne peut pas avoir plusieurs pères. Mais il y a une espèce de deux. Et ça, c'est très très important, je crois. On ne peut pas avoir plusieurs pères. Quelqu'un qui dit, c'est mon père spirituel. On comprend qu'à ce moment-là, on prend du recul. On peut aider, mais on est toujours en référence au père spirituel. Il faut être extrêmement net là-dessus. Autrement, on fait des mélanges. Alors celui qui dit qu'il y a plusieurs pères spirituels, il les oppose et fait son miel. Donc il n'obéit jamais. C'est très dangereux, ça. Venez. Vous êtes très, très net là-dessus. Et la paternité humaine, c'est la même chose. Le père est père, la mère est mère. En fonction d'enfant. Donc, pourquoi est-ce la paternité qui est source de vie? Mais c'est le père et la mère qui sont source de vie. Une coopération substantielle. Donc ne séparez pas. Il ne faut pas séparer, il faut les mettre. Et dans la conséquence de la paternité, c'est l'éducation. Alors, dans l'éducation, la mère, ordinairement, a autorité quand l'enfant est tout petit. Quand l'enfant grandit, le père prend. Mais ça, c'est une entente familiale. C'est une entente familiale qui doit se faire. Alors quand il n'y a pas d'entente familiale, l'État intervient. Et l'État reconnaît que les enfants, quand ils sont petits, sont à la mère, ordinairement. Et quand ils grandissent, c'est le père. Ça, c'est l'État qui fait ça. Ça pourrait changer. C'est pas des choses qui... Il y a un aspect conventionnel qui intervient là-dessus. Donc comprenons bien au plan philosophique. Alors je disais, au plan philosophique, que, au sens strict, l'autorité ne naît pas à partir de l'amour d'amitié. L'autorité naît à partir d'une responsabilité. Alors, dans l'amour d'amitié, il y a responsabilité réciproque. S'il y a responsabilité réciproque, au sens strict, il n'y a pas autorité. Mais on peut très bien, dans l'ordre de l'amitié, se donner mutuellement l'autorité. Dans ce domaine, c'est toi qui gouverneras. Dans cet autre domaine, c'est moi. Quand il s'agit de la paternité et de la maternité, par rapport à l'enfant qui est incapable de se gouverner lui-même, alors il y a autorité explicite. Et l'ami pourra très bien dire à son ami, dans le mariage par exemple, l'époux pourra très bien dire à l'épouse, écoute, hein, tu te fais que des gaffes. Il doit le dire avec amour. Donc je prends l'autorité dans ce domaine-là. Est-ce que tu es bien d'accord? Il apprend pour éviter les gaffes. c'est comme ça que ça se passe concrètement. Et c'est très normal. Parce que dans l'amour d'amitié, l'autorité est réciproque. Les responsabilités sont réciproques. Donc au sens strict, il n'y a pas d'autorité. Il y a une entente familiale, amicale. Et quand l'entente amicale n'existe plus, ben, il faut bien que l'un ait l'autorité et que l'autre la subisse. Et ordinairement, comment ça se passe dans l'amitié, on se l'a dit réciproquement. Dans ce domaine, tu es bien plus compétent que moi dans ce domaine. Tout simplement. Pourquoi l'autorité est-elle premièrement paternelle? N'est-ce pas la mère qui... Alors voyez, premièrement, selon l'ordre génétique ou selon l'ordre de nature, tout l'équivoque est là. Génétiquement, c'est la mère qui a l'autorité. C'est bien évident. Sur le tout petit. Et si le père intervient trop fort, ça ne va plus. Mais si le père intervient, ah oui, alors ils s'arrangeront. Puisque c'est réciproque, l'autorité. L'État peut intervenir à sa manière. Et reconnaître que c'est le père qui a autorité sur le fils quand il grandit, sur la fille quand elle grandit. Peut le faire, c'est l'État. Philosophiquement, au plan philosophique, l'autorité des deux est réciproque. Vous voyez, il faut bien comprendre le plan philosophique et le plan juridique. Vous semblez dire que l'éducation implique nécessairement une éthique religieuse. Pourquoi? J'ai pas dit ça tout à fait. L'éducation relève de la paternité et de la maternité, qui fondamentalement sont religieuses, puisque c'est Dieu qui crée l'âme. Donc, une éducation qui nie l'existence de Dieu, qui nie que Dieu soit le père de l'âme, explicitement, hein, elle est amputée. Mais l'amour d'amitié, nous l'avons vu, n'est pas premièrement religieux. Or, si entre l'époux et l'épouse, c'est premièrement une amitié, je peux dire que l'éducation existe sans être explicitement religieuse. Éducation familiale. Mais elle implique en acte l'attitude religieuse, sans l'expliciter. Puisque l'âme est créée par Dieu. Et donc, c'est l'éthique familiale, religieuse, qui pourra seule être parfaitement vraie. L'autre restera implicitement vrai. Mais c'est toujours très très délicat de bien préciser. Hein. Donc, vous semblez dire que l'éducation implique nécessairement une éthique religieuse. Pourquoi? C'est un fait. Hein. Quand l'éducation n'est plus religieuse, vous savez, ça ne tient pas très bien la route. Et très vite. Ce qu'on voit aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce qui reste comme éducation? C'est un fait. Et philosophiquement, on comprend très bien ça. Puisque l'âme est créée par Dieu. C'est Dieu qui remet aux parents l'enfant. Ontologiquement parlant. Et ontologiquement parlant. C'est comme ça. L'homme, naturellement, est un être religieux. Il ne le reconnaît pas tout le temps. Mais naturellement, il l'est. Alors, existe-t-il une éthique? Philosophiquement, je distingue les deux. Et je dois distinguer les deux. Mais dans la réalité, une éthique qui se distingue de l'aspect religieux, sans le nier. Peut-être une éthique humaine. Une éthique humaine qui se sépare et qui s'oppose à une éthique religieuse. Elle ne peut pas être vraie. Dans l'ordre de l'éducation, puisque précisément dans l'ordre de l'éducation, je suis dans un ordre d'exercice. Autre chose, une éducation confessionnelle. Ça, c'est différent. C'est-à-dire chrétienne, musulmane, juive. Ça, c'est confessionnel. Mais une éducation qui s'oppose à l'attitude religieuse, mais explicitement, j'ai le droit de dire, vous n'avez pas le droit de faire ça. Ce ne sera pas entendu. Aujourd'hui, je le sais, mais on doit le maintenir. On doit être des gens baptistes qui crient dans le désert et qui disent la vérité en sachant qu'ils se font couper la tête. S'ils disent la vérité, tant pis. Il vaut mieux entrer dans le ciel avec la tête coupée que de l'avoir encore sur le dos et puis aller, non pas au ciel, mais autre part. Oui, distinguez bien éthique et éducation. Ne bloquez pas les deux. L'éducation implique nécessairement une finalité. Alors, ça peut pas être la communication d'une finalité qui est explicite. Je peux éduquer d'une façon éthique, fondamentale, fondamentalement humaine, sans expliciter le point de vue religieux. Et je ne peux pas m'y opposer. Je ne peux pas le rejeter explicitement. Tu restes comme l'éthique fondamentalement humaine. J'espère que vous voyez suffisamment. Est-ce que c'est important, ça? Est-ce que les parents qui ne sont pas sans être religieux peuvent-ils éduquer convenablement leur enfant? Toujours la même chose. Ils peuvent l'éduquer s'ils ne s'opposent pas explicitement à l'attitude religieuse. Pourquoi dites-vous alors que l'éducation est premièrement et fondamentalement religieuse? Oui, parce que l'âme est créée par Dieu. Et que ma finalité parfaitement humaine implique, or, comme l'éducation implique que c'est l'éducation de quelqu'un d'autre, il faut une éthique parfaite. Seul le parfait peut se communiquer. Donc individuellement, vous voyez, je pourrais vivre une éthique fondamentalement humaine. Mais dès que je communique aux autres, c'est très curieux. Pour communiquer, être source, il faut la perfection. C'est pour ça qu'une éthique qui veut être purement laïque, je veux dire une éducation qui veut être purement laïque, est toujours boiteuse. Toujours. Et comme éducation, parce que l'éducation implique la perfection. Je ne peux pas éduquer au point de vue en séparant. C'est très curieux. C'est là que je dis, il faut bien réfléchir sur ce problème-là. N'est-elle pas, au contraire, fondamentalement humaine? Et donc, oui, l'éthique n'est pas l'éducation. Elle est fondamentalement humaine, mais comme elle implique la communication aux autres, très vite, je dois expliciter. Je ne sais pas, alors là, je reste avec un point d'interrogation. Si on peut éduquer vraiment en restant neutre, est-ce que la neutralité existe-t-elle ou pas? point de vue éducation, je crois pas. Mais elle existe pour l'individu.